Le 11 avril dernier, cela faisait 50 ans jour pour jour que s'éteint le procès Eichmann à Jérusalem en 1961. Quels furent les rapports de l'architecte de la solution finale de la question juive avec la Bohème? Pour répondre à cette question, David Talon a rencontré deux spécialistes, le journaliste Stanislav Motl, qui a abordé le sujet dans son livre « Les victimes et leurs assassins » publié en Tchèque en 2008, et Michal Frankl, qui dirige le département d'histoire de la Shoah au musée juif de Prague.
Chapitre de l'histoire.
Stanislav Motl, en 1998, vous avez rencontré Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis. Quel souvenir en gardez-vous ?
J'ai rencontré Simon Wiesenthal deux fois et je peux dire que je le connais bien. C'était une personnalité très charismatique. Il avait une nature spéciale. Ce n'était pas un saint, mais quand il disait que justice n'est pas vengeance, il l'appliquait vraiment. Parfois, vous aviez l'impression qu'il parlait trop, parfois qu'il n'écoutait presque pas, mais personne, d'après moi, ne possédait une telle sensibilité. Il était aussi très systématique, ce qui l'a beaucoup aidé dans son travail. Peu de gens le savent, mais Simon Wiesenthal connaissait très bien la situation en République tchèque. Il avait étudié la technique allemande à Prague de 1928 à 1932 et il se rappelait très bien de ces années. Cette expérience l'a particulièrement aidé quand il a reçu des informations sur un certain Karel Lukács, dont nous reparlerons plus tard.
Když narazil na to jméno Karl Lukas, a ještě můžu říct jednu věc k tomu, že dneska samozřejmě spousta lidí, která ho spochybňuje.
Je dois encore ajouter une chose. Simon Wiesenthal nous a quittés en 2005 et aujourd'hui, il se trouve un certain nombre de personnes pour douter de son travail, en avançant par exemple son incapacité à retrouver Joseph Mengele, le médecin tortionnaire d'Auschwitz-Birkenau. Il avait un moment cru mort et une autre fois avait annoncé sa proche capture. C'est un fait qu'il ne pouvait pas vérifier matériellement toutes les informations qu'il recevait.
On dostal spoustu informací, nemohl si ověřit všechno, co je pravda. V roce 2001, tuším, byl v Mnichově odsouzený do životí.
En 2001, l'ancien commandant SS de la petite forteresse de Térézine était condamné à la prison à vie lors d'un procès à Munich. Or, on le doit à l'influence de Simon Wiesenthal, qui avait amassé de nombreuses informations sur lui. Mais l'information selon laquelle Wiesenthal avait retrouvé Eichmann relève de la légende, même s'il a joué un rôle certain dans les recherches qui conduisirent à la capture.
Dans votre livre « Les victimes et leurs assassins », on apprend que Eichmann se rendait régulièrement en Bohême dans les années 1930. Il y possédait en fait sa belle famille.
On to byl nadporučík jako československé armády, který se v roce 1931 přiženil do rodiny.
À la fin des années 20, Karel Lukács, lieutenant de l'armée tchécoslovaque, fait la connaissance de Marie Liblova. Celle-ci vient d'une famille allemande du sud de la Bohême, dans la commune de Mladá, qui est aujourd'hui un quartier de České Budějovice. Il se marie en 1931. Or, la sœur de Marie, Veronika, se marie en 1935 avec Adolf Eichmann. Le beau-frère d'Eichmann était donc tchèque et qui plus est, lieutenant de l'armée tchécoslovaque. La police tchécoslovaque était au courant et surveillait chacun des faits et gestes d'Eichmann car on supposait qu'il travaillait dans les intérêts du parti nazi, ce qui était vrai. Il y avait d'ailleurs eu des affaires avérées d'espionnage.
Což byla pravda. A on tu měl skutečně se ukázal špionážní úkoly. Co je ale zvláštní u toho Lukáše Karla ještě, že vlastně celou dobu druhé světové.
Pendant toute la durée de la guerre, les deux couples vivaient dans la même villa, qui se trouve dans l'actuelle rue ou Laboratoire à Prague. Karel Lukáš était donc parfaitement au courant des activités d'Eichmann.
Takže já tvrdím, že ten Karel Lukáš musel vědět, takovou co šlo. No a ta celá story.
Quand Simon Wiesenthal revient des camps de concentration, il offre tout de suite ses services au comité américain de recherche des criminels de guerre. Sa première cible, Eichmann. Après la guerre, Eichmann s'était caché dans sa famille, à Linz, en Autriche, et le bureau que Simon Wiesenthal occupait alors se trouvait dans la même rue, à environ 200 mètres. Il ne le réalisera que plus tard. En 1947, il reçoit un document de la CIA, les services de renseignement américains, affirmant qu'Adolf Eichmann est mort. On suppose que ce document fut transmis par Karel Lukács.
Après la guerre, Karel Lukács a donc essayé de couvrir Eichmann et de décourager toute tentative d'enquête et de capture. Simon Wiesenthal l'avait pourtant excusé. Pour quelle raison ?
Simon Wiesenthal savait exactement qui était Karel Lukács et ce qu'il faisait. Mais il l'a défendu, il a dit qu'il le comprenait et qu'il avait essayé de protéger sa famille. Mais il existe aussi d'autres variantes possibles. Il se peut en effet que ce ne soit ni Karel Lukács ni sa femme qui ait transmis l'information de la mort d'Eichmann, mais Veronica, la femme d'Eichmann, ou même Eichmann en personne. Il est vrai qu'après-guerre, Karel Lukács a été licencié de l'armée tchécoslovaque, mais il a pu continuer à travailler et il est mort en 1980, comme un homme tranquille.
Dans les années 60, et donc même après le procès Eichmann, Karel Lukács vivait toujours dans la villa qu'il partageait avec le chef SS pendant la guerre. Or, cette maison avait été confisquée à une famille juive. Comment expliquer cela, Michal Frankel ?
La question de la restitution des biens juifs confisqués pendant la guerre dans le protectorat de Bohême-Moravie est compliquée et n'a pas vraiment été résolue jusqu'à présent. Elle ne le sera d'ailleurs probablement jamais. En effet, la plupart des anciens propriétaires n'avaient pas pu se déclarer après-guerre car ils n'avaient pas survécu. Bien sûr, tous les pays occupés ont rencontré des problèmes pour la restitution des biens juifs, car la Shoah a aussi représenté un immense pillage économique et social des communautés. Ce ne fut d'ailleurs pas le seul pillage. Il suffit de penser aux conséquences des décrets Beneš en 1948 et à l'expulsion des communautés allemandes de Tchécoslovaquie. Les autorités ont empêché que les restitutions remontent à l'avant 1948. Bien sûr, l'arrivée des communistes en 1948, mais ces restitutions sous clé et celles qui sont en cours sont interrompues. Certains biens rendus avant 1948 ont d'ailleurs été à nouveau confisqués après. En ce qui concerne les propriétés des communautés juives, le régime leur restitua les cimetières et les synagogues. Mais dans les localités où tous les juifs avaient été tués pendant la guerre, les autorités se sont retrouvées dans l'impossibilité de restituer ce patrimoine. D'ailleurs, sous la pression politique, ces biens ont souvent été revendus à des prix avantageux. C'est pour cette raison que la plupart des synagogues en Bohême-Moravie appartiennent aujourd'hui à l'église Hussite.
Alors on revient sur le procès Eichmann avec vous, Stanislav Motel. Y avait-il des juifs tchèques qui témoignèrent au cours du procès ?
Oui, il y avait des témoins tchèques au procès d'Eichmann, mais même en 1961, on savait encore peu de choses sur Eichmann, et c'était peut-être encore plus vrai dans les pays du bloc soviétique qu'ailleurs. J'ai retrouvé un document que je possède encore, c'est un texte qui date de 1946 et qui était arrivé de Nuremberg, où se tenait le célèbre procès contre les dirigeants nazis. On demandait aux autorités tchécoslovaques de délivrer toute information concernant Eichmann. Celles-ci répondirent qu'elles n'avaient aucune charge contre lui et qu'il n'avait a priori commis aucun crime en Bohême-Moravie. Bien sûr, on savait qu'il avait organisé les déportations de juifs polonais. Pourtant, si l'on avait consulté les bonnes sources, on aurait pu savoir qu'Eichmann était au centre de la solution finale de la question juive dans l'ensemble de l'Europe. Lors de son procès, Eichmann se présente pour sa propre défense comme un simple exécutant qui n'aurait fait qu'obéir aux ordres. En vérité, c'était un antisémite convaincu et le véritable architecte du génocide. Dans son analyse sur la banalité du mal, Hannah Arendt s'est laissée tromper par ce subterfuge.
Suite de l'émission la semaine prochaine, avec le sort des Juifs tchèques pendant et après la guerre.